Il y a le syndicat des intervenantes et des intervenants de la santé du Nord-Est québécois, la CISNEC-CSQ, en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération de la santé du Québec, qui ensemble revendiquent des plans de sauvetage en soutien au personnel de la santé de la Côte-Nord. Et on en discute justement avec la présidente du syndicat CISNEC-CSQ, Nathalie Savard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc d'abord, là, dites-moi, qu'est-ce que vous revendiquez exactement là, dans vos communications? Entre autres, la semaine dernière, vous avez tenu un point de presse dans lequel vous avez parlé, entre autres, là, de conditions de travail insupportables sur la Côte-Nord. C'est quoi vos constats?
Ben écoutez, ce qu'on peut voir au niveau du CIS Côte-Nord présentement, c'est des conditions de travail très difficiles. On manque de personnel. On les en demande beaucoup. Il y a beaucoup de temps supplémentaire. Alors les gens sont fatigués. C'est sûr que là il y a la COVID là. Et ce qu'on constate, c'est que oui, il y a du recrutement, mais en même temps, on a de la misère à garder nos personnes à l'embauche au niveau de la catégorie 1, donc infirmière inhalothérapeute, parce que oui, on embauche beaucoup, mais il y a beaucoup de départs, puis c'est presque égal là, si on regarde les statistiques là, de la dernière période de l'année précédente à celle-ci. Bien écoutez, c'est presque pareil là, on embauche 50 puis il en reste 47, fait qu'il nous en reste 3. Fait que on met beaucoup d'énergie à recruter des gens, mais c'est de l'argent mal investi si on s'occupe pas qu'ils demeurent à l'emploi, que autant nos personnes qui ont beaucoup d'expérience demeurent à l'emploi que les personnes qu'on vient d'engager.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous là, d'avoir des conditions d'emploi en ce moment qui vont moins bien? Est-ce que c'est les horaires? Est-ce que c'est le salaire? Qu'est-ce que c'est exactement?
Écoutez, on peut regarder au niveau des je vais vous donner un exemple là. Habituellement, quand on affiche des postes, il y a une pratique dans le passé, c'est qu'on affiche les gens ont le choix entre un poste de jour stable, un poste de soir ou un poste de nuit. Présentement, l'emploi nous a indiqué que il y aurait plus de postes de jour à afficher, mais que ça allait être des postes rotation jour soir ou jour nuit. Alors quand toi, ça fait 10 ans, 15 ans que tu travailles, puis que là, ton tour est arrivé comme d'avoir un poste de jour, là, il n'y a plus de possibilité pour le faire. Puis à Fermont, ça s'est aussi concrétisé par l'affichage de postes de conseillère en soins infirmiers et d'infirmière en soins à domicile de jour soir. Alors que ces deux postes qu'habituellement les gens travaillent au soin à domicile, il y a du travail juste deux jours, et aussi au niveau des conférences soins, c'est des gens qui sont là pour faire des plans d'action, pour conseiller des équipes, et ces gens-là sont sur des quarts de jour. Jamais vu de conférences soins vraiment travailler de nuit, là, à moins que ce soit un gros hôpital ou quelque chose comme ça. C'est quand on parle de Fermont, là, en tout cas. Alors, c'est ça. Alors là, les gens se disent, ben voyons donc, on pensait être arrivé au bout du Berry, on pensait que nos conditions de travail c'était comme le bout qu'on pouvait arriver, mais non, on peut voir qu'on peut en mettre encore plein dans notre cours. Chez vous à Fermont, il y a eu tout aussi le dossier des sorties annuelles, où ce que il y a des gens qui ont été engagés dans le passé, malheureusement il y a une clause dans la convention qui dit quand on est engagé à plus de 50 km, on a le droit à des sorties annuelles que l'employeur nous paye pour retourner chez nous. Et il y a des gens qui ont mal été engagés, on a demandé de changer leur CV, alors on a fait des demandes express à l'employeur pour dire, écoutez, on peut-tu revoir ces dossiers-là, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans le passé, et alors là, on a demandé à l'employeur qui est allé revoir, mais qui a accepté aucun, ou presque peut-être un dossier sur 20 là, qui a été accepté. Alors qu'on voit la main-d'œuvre indépendante qui vient travailler chez nous, on leur paye leur transport, on leur paye leur logis, on leur paye le déplacement. Et on voit aussi présentement, quand on a eu la fusion du CIS de la Côte-Nord, une des choses, c'était pour diminuer le budget d'opération au niveau de la gestion. Et quand en 2016, on avait coupé beaucoup de postes de cadres, maintenant on voit que ces postes-là, il y en a plein, on en voit affiché énormément. Et là, on voit nos gestionnaires qui gèrent à différents endroits de la Côte-Nord, et là, les autres, ils se déplacent, on les voyage, on les loge, on les couche, on les... Tu sais, alors là, les gens disent, ben écoutez, c'est ça, nous, on est trop auprès des patients, on donne des soins, on donne beaucoup de notre temps, on fait du temps supplémentaire, énormément. Les agences sont payées plus cher, sont plus reconnues que nous. Les cadres, eux aussi, peuvent voyager, alors que nous, on n'est même pas capable de venir regarder notre dossier correctement et de nous accorder ces sorties. Alors, c'est tout ça que les gens déplorent. Beaucoup de difficultés aussi cette année au niveau de l'affichage des vacances. On a de la misère à s'entendre avec l'employeur. Pourtant, c'est clair dans notre convention collective. Alors, ce qu'on sent, c'est que l'employeur essaie de par tous les moyens de faire beaucoup de mobilité, de déplacement, d'augmenter la période de prise de vacances. Là, tu sais, quand on parle de prendre des vacances en période estivale sur la Côte-Nord, bien c'est parce que si on dépasse, tu sais, l'employeur voudrait peut-être au début mai, mais au début mai, il fait encore pas tellement chaud, les jeunes sont à l'école. Alors nous, ce qu'on a voulu faire en égo, c'est diminuer cette période-là pour donner de meilleures conditions à nos membres, mais on essaye par tous les moyens de faire autre chose. Fait que c'est ces conditions de travail-là, présentement, là, qui sont très difficiles, et ça se voit par l'augmentation de l'assurance salaire, et comme je vous disais, des départs, puis on entend des gens, j'ai entendu des gens à Fermont aussi, dire, écoutez, on va aller travailler pour les mines, on va faire d'autres choses, on est tanné, on est à bout de souffle, on n'est plus capable. Une infirmière de 23 ans qui me dit, bien, moi, j'ai donné ma démission, puis je suis allée travailler chez Tim Hortons, je suis super heureuse. Faut se poser des questions.
Et justement, là, vous avez fait état d'une espèce de manque de communication avec le CIS de la Côte-Nord, avec l'employeur, en fait. Est-ce qu'il y a quand même des discussions qui sont en cours en ce moment? Est-ce que ça va bien? Comment ça va de ce côté-là?
Écoutez, c'est pas facile. C'est pas facile depuis la fusion du CIS Côte-Nord. On a fusionné beaucoup de mentalités en relation de travail. Je pense que là, il y a des actions. L'employeur semble vouloir comprendre que les solutions à la pénurie de main-d'œuvre passent aussi par la collaboration avec les syndicats. Nous connaissons nos membres, nous connaissons leur réalité, nous parlons avec ceux-ci et ceux-ci nous donnent des solutions et nous amènent des solutions sur plein de problématiques qu'ils vivent. Alors, je pense que l'employeur là, commence à comprendre. Je sais pas comment de fond de baril il faut avoir là, mais il commence à comprendre l'importance de nous interpeller, de discuter avec nous. Et nous, on va se faire les porte-parole des gens qu'on représente. On connaît bien leur réalité. Moi, pour être allée à plusieurs reprises à Fermont, voir ce que les gens vivaient, voir comment ça donne les services, on comprend et on est capable d'amener des solutions. Mais ça va passer aussi par l'augmentation de certaines conditions de travail. Quand l'employeur nous demande, écoutez, j'aimerais ça que nos personnes fassent des horaires de 12 heures, d'accord, mais il faudra bonifier certaines choses. Faut pas juste se faire répondre, ben, on n'a pas d'argent pour le faire quand on voit comment l'argent coule au niveau de la main-d'œuvre indépendante. Là, on offre à ces infirmières-là des salaires de 80 $ de l'heure et de 100 $ de l'heure, plus le paiement de l'agence, là, eux aussi doivent faire des profits. Alors, vous comprenez que l'employeur, nous, notre position, c'est de dire, écoutez, si on veut investir l'argent, investissons dans notre main-d'œuvre actuelle, investissons dans des gens que ça fait 20 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils donnent des services à Fermont, qui ont à cœur la population, que c'est des gens qui investissent aussi dans la région parce qu'ils demeurent à Fermont et qui participent à la vie communautaire de Fermont. Alors, je pense que ça, l'employeur, il doit comprendre ce message-là. Et nous, on est là pour ça, pour l'aider à trouver des solutions, mais des solutions qui vont être avantageuses pour les gens qu'on représente et non le contraire.
Avec la deuxième vague de COVID-19, là, j'imagine que ça doit ajouter une couche de plus là, parce qu'il y a plus de stress là, et de évidemment d'autres conditions de travail qui s'ajoutent à ça dans les différents services de santé. Puis c'est aussi un point que vous avez apporté dans le communiqué de presse qui a été publié la semaine dernière. Vous demandez un plan de sauvetage pour soutenir le personnel de la santé ici sur la Côte-Nord. Est-ce que ça a rapport avec la COVID et tout ça? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux?
Bien, écoutez, effectivement, là, déjà, c'est difficile, les conditions de travail, puis il y en avait beaucoup de pénuries de personnel, mais la première vague a été difficile, la deuxième vague s'en vient, puis oui, on demande un plan d'urgence à nos employeurs et au gouvernement. Alors, on peut pas juste dire à la télévision qu'on a des anges gardiens, parce que sur le terrain, On n'est pas traité comme des anges argentins présentement, mais il faut trouver des solutions à ce que les gens vivent, là. Ne serait-ce que mettre, tu sais, regarder ce que nos infirmières font, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire être fait par d'autres corps de métier, le faire, investir auprès de ces gens-là. Tout à l'heure, je parlais des sorties. Tu sais, il y a des gens qui ont annulé leurs vacances durant la première vague, là. On leur a payé une partie, mais à taux simple, alors que, tu sais, ils ont fait des sacrifices, ces gens-là. Alors là, le gouvernement, là, puis M. Legault, quand il va faire ses points de presse, il dit oh, « ça me fait mal au cœur, mais je dois annoncer que telle zone est rouge maintenant. » Mais moi, voir ce que les membres que nous représentons, nos infirmières, nos infirmières auxiliaires, nos inhalos, tout ce qu'on peut leur demander, on les a demandé dans la première vague, ce qui s'en vient dans la deuxième, ben moi, ça me fait mal au cœur de voir ça. Puis, on est en négociation des conventions collectives présentement, puis il n'y a aucune écoute du ministère, à part le message de dire, bien, on est des anges gardiens, mais des anges gardiens, ça s'épuise, là. Nos anges gardiens, ils s'épuisent. Et là, il y a beaucoup d'eau sur la Côte-Nord. Fait que si on veut pas que nos anges gardiens se noient dans la deuxième vague, là, il va falloir vraiment apporter des solutions et rapidement. Puis présentement, on a beaucoup de gens qui nous désertent pour aller travailler dans les agences privées de main-d'œuvre, qui désertent le réseau public en disant « je vais être bien mieux ». Moi, je dis « je peux travailler tel jour, tel jour, tel jour ». Mais là, il va falloir mettre un frein à ça. Et si c'est d'augmenter les conditions de travail, de donner des meilleurs salaires, des plus de sorties pour nos gens qui travaillent dans des régions comme Fermont, et il va falloir mettre la main à la pâte et aller rechercher nos infirmières, infirmières auxiliaires, inhalos qui ont quitté notre réseau pour le privé.
Il faut dire aussi que du côté du CIS de la Côte-Nord, il y a eu l'embauche de près de 1000 personnes, il y a 902 personnes exactement entre le 1er janvier et le 1er septembre 2020. C'est des données qui nous ont été envoyées pas longtemps après la publication de votre communiqué de presse la semaine dernière. Et on mentionne que normalement, à l'année, c'est environ 600 embauches qui ont lieu à chaque année. Et là, on parle de 900 personnes environ. Est-ce que pour vous, c'est une amélioration dans le système? Est-ce que c'est une bonne
écoutez, le CIS n'a pas mentionné le nombre de départs, par exemple. Ils ont mentionné le nombre d'embauches, mais ils n'ont pas mentionné le nombre de départs. Moi, je pourrais vous dire là qu'au 15 août, là, on avait embauché 44 infirmières et il y en a 42 qui ont quitté. Alors, on est dans un bilan de deux. Et là, ce qu'il faut regarder aussi là-dedans, là, on est allé chercher de la main-d'œuvre. Nous, on appelle ça des retraités réembauchés. Alors, durant la crise du COVID, là, on a fait un appel à nos retraités réembauchés qui sont venus donner un coup de main dans le réseau de la santé, qui sont venus aider, mais c'est des retraités réembauchés. Fait que les chiffres peuvent être, tu sais, dans ces chiffres-là aussi, on a eu beaucoup d'étudiants qu'on a engagés pour faire les portiers aux portes, là, parce qu'il y avait beaucoup de contrôle aux portes. Alors, je comprends qu'ils nous disent ça, mais serait intéressant de décortiquer les chiffres qu'ils nous donnent, parce que moi, je vous le dis, là-dedans, il y a des retraités rembauchés, il y a des étudiants que normalement, il y aurait, dans une période normale, ils n'auraient pas été embauchés, parce qu'on a eu besoin de faire de la sécurité au niveau des portes pour surveiller, pour dire aux gens de se laver les mains. Alors, je comprends que ça peut être impressionnant, les chiffres, là, mais en même temps, ils nous ont pas dit comment avait quitté. Moi, je le sais pertinemment qu'il y a des retraités réembauchés qui ne seraient pas venus travailler dans le réseau de la santé si ça n'aurait été de la pandémie du coronavirus, donc de la COVID-19. Alors, écoutez, moi, le chiffre que j'ai ici, là, dans mon embauche nette, là, il me reste deux infirmières, il me reste quatre infirmières auxiliaires et j'ai deux inhalos. Alors, dépendamment des catégories d'emploi, là, moi, je pense que c'est ça, ils ont envoyé ça, mais quand on jase avec eux puis qu'on sort les chiffres, qui sont d'ailleurs sur leur site Internet, c'est ça. On peut faire dire un peu n'importe quoi, mais moi, j'ai les chiffres de leur site au niveau des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, puis encore là-dedans, tu sais, je vous dis, il y en est resté deux, mais encore là-dedans, je sais qu'il y a de l'embauche, j'aurais traité réembauché.
Est-ce qu'il y a des discussions de plus qui s'en viennent dans les prochaines semaines avec le CIS concernant notamment les embauches et toutes les autres revendications que vous avez?
Bien, effectivement, effectivement, écoutez, je vous cacherai pas qu'il y a eu des discussions dans les derniers temps avec le nouveau PDG, Monsieur Lévesque. Il y en avait eu lors de son arrivée, mais il était pas sur le même ton que ceux qu'on peut avoir présentement, où ce qu'on lui a dit, écoutez, si vous continuez comme ça, on va se noyer. Il faut se parler. Quand je dis que nos gens, moi, j'ai fait des réunions en Haute-Côte-Nord avec les membres, puis les gens, il y a des problématiques, notamment aux Escoumins. Puis le monde fait deux réunions qui amènent des solutions. Mais c'est parce qu'on dirait qu'on est... Tu sais, le 6 Côte-Nord amène son lot de défis sur la gestion de tout ça. C'est un 6 qui a un énorme territoire avec des réalités. Si on prend la réalité de Fermont, elle est complètement différente de celle de la Basse-Côte-Nord, de Baie-Comeau ou de la Haute-Côte-Nord ou de la Méganie. Alors, ça amène son lot de difficultés. Des gestionnaires qui couvrent un très, très grand territoire que là, peuvent pas vraiment se déplacer à cause de la COVID. Il va falloir un jour se poser la question si la fusion des établissements de santé, notamment sur la Côte-Nord, a fait en sorte d'améliorer les soins à la population et de diminuer les budgets de gestion, parce que c'était vraiment ça le but du ministre Barrette à l'époque. Et il va falloir à un moment donné se poser des questions, puisque je pourrais vous dire que moi, le 6 Côte-Nord, quand c'était pendant la crise COVID, au début, là, ça a été tout qu'un défi de gérer ça. Et la deuxième vague va être encore tout qu'un défi de gérer un si grand territoire avec des réalités complètement différentes.
Eh bien, Nathalie Savard, on vous souhaite bonne chance avec tout ça. Vous êtes la présidente du syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, puis on vous souhaite une belle fin de journée.
Merci, bonne fin de journée à vous aussi. Et je voulais juste, en terminant, dire bonjour aux infirmières et infirmières INALO de Fermont et de leur dire merci pour tout ce qu'ils peuvent faire pour la population de Fermont, surtout en ce temps de crise.